bouton.
Ça tourne.
T'es sûr?
Ça tourne. Oui, je suis sûr.
T'appuies sur le bouton.
Bah oui, c'est bon.
Je peux te faire confiance. Bon bah salut.
Bienvenue dans Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien.
Salut Mathieu.
La technique, t'es sûr hein?
Ouais ouais, c'est bon. Donc, ça tourne.
Confiance.
Ah ouais, t'inquiète.
Alors, ce mois-ci, on va parler du point de vue du producteur.
J'ai envie de dire première partie, parce qu'il y aura peut-être d'autres points de vue du producteur.
Il y en aura sûrement d'autres, un peu plus tard. Mais avant d'accueillir nos super invités, on va vous rappeler que vous pouvez désormais nous soutenir avec un tip sur le site Tipeee, un site 100% sécurisé, où vous pouvez régler avec votre CB ou via PayPal en quelques clics, et vous pouvez nous soutenir ponctuellement pour chaque podcast publié. Voilà, c'est vous qui voyez. Et juste avec 1€, ça nous aide déjà beaucoup. Voilà, le lien sera dans la description du podcast.
Alors, on en profite pour remercier nos tipeurs du mois. Merci Antoine.
Merci Arié.
Merci François.
Merci Hussein.
Merci Leïla.
Merci Dame Marmelade.
Merci Daniel.
Merci Pascal.
Et merci Benjamin. Et grâce à vous, chers tipeurs, nous allons bientôt lancer nos épisodes Y'a plus de papier hors série. Alors, c'est quoi Mathieu, les hors série de Y'a plus de papier?
Je sais pas moi, j'étais pas au courant.
Ah, bah alors du coup, je tease jusqu'au
t'es
bout.
Je te mets dans la merde, comme ça t'es obligé d'expliquer.
Alors, ce sont des épisodes où nous discuterons avec un scénariste célèbre. Alors, on met la barre très haut, hein, comme vous pouvez le voir.
Célèbre, tout est relatif.
Tout est relatif, un scénariste. Oui. Un scénariste important, disons, qui a eu une carrière assez conséquente.
Voilà.
Donc nous reviendrons sur ses débuts, sa carrière, sa filmographie et ses méthodes de travail. Nous préparons actuellement le premier épisode et on vous en dit plus très bientôt. Alors, j'en profite pour annoncer que ce podcast est désormais soutenu par notre partenaire, la société Sur les Toits Productions et la société Plénimage, qui nous accueille dans ce studio flambant neuf et fort bien chauffé, comme Mathieu peut confirmer.
Voilà, on va baisser le chauffage d'ailleurs.
On remercie plus particulièrement Antonin Sgambato, donc cofondateur de cette structure qui produit des documentaires, courts-métrages, séries et plein d'autres choses super chouettes. On aurait bien aimé qu'il nous dise un petit mot, mais il est très occupé, donc on espère le retrouver sur le prochain. On mettra un petit lien, voilà, exactement. Eh bien voilà, on peut commencer du coup, Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, non, j'ai pas envie.
Pas pour moi. Rentrez chez vous, désolé.
Bon, désolé, tout est annulé. Merci d'être venu. Hein.
Alors, nos invités aujourd'hui pour ce podcast sur le point de vue du producteur, nous recevons Peggy Desplat, productrice chez Cassiope Film, société de production de films et qui a fusionné récemment avec PewProd, plutôt celle-ci orientée corporate, pub et brand content. Salut Peggy, comment ça va?
Ben, ça va pas mal, un peu intimidée.
Tu vois, ça va aller mieux dans quelques minutes.
Intimidée par nous? Non, quand même.
Ben si, ben si.
Non, c'est Franck qui t'intimide.
À côté de Peggy, Franck Carl, producteur chez La Terre Tourne. Franck, la forme?
La forme, bonjour tout le monde.
Eh bien bonjour, merci à vous deux de nous rejoindre pour ce podcast.
Merci de nous accueillir.
Ben, on commence tout de suite par un premier tour de table. On aimerait bien un petit peu savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez fait avant et surtout comment vous êtes venu à la production. Honneur aux femmes, j'ai envie de dire. Peggy,
la galanterie, oui. Honneur aux femmes.
Ce podcast est tellement macho, il faut le savoir.
C'est laid.
C'est bas, on sait.
Non, en fait, je viens vraiment de loin, parce qu'effectivement, j'ai vécu en Afrique quand j'étais petite. Donc là, pour le coup, je viens vraiment de loin.
Ah oui, au sens...
au sens très, très loin. Après, j'ai fait des études plutôt classiques. J'ai fait une école de commerce. Et puis, j'ai démarré...
pas n'importe laquelle, il me semble.
Ouais, j'ai fait HEC. Et puis, j'ai démarré dans les jeux vidéo, un peu par hasard. Parce que j'avais envie d'une aventure entrepreneuriale et je suis rentrée chez Ubisoft quand la société avait encore 50 personnes en 95 et qui commençait à démarrer dans la production des jeux vidéo. Et donc voilà, je me suis retrouvée productrice de jeux vidéo. À l'époque, ça s'appelait chef de projet, ça s'appelait pas producteur. Et j'ai commencé avec des jeux vidéo de jeux de course de voiture. Donc je suis une spécialiste de la Formule 1 et j'ai sorti en 97 un jeu qui s'appelait F1 Racing Simulation sur PC qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Voilà.
Voilà, s'il y a quelques gamers un peu âgés qui nous écoutent. Enfin, un peu âgés.
Un peu âgés, tu peux voilà, le dire. Ouais. Tu peux le dire. C'est pas très sympa, mais tu peux le dire quand même.
Aguerri.
Voilà. Et alors, pourquoi je suis venue au métier de producteur? J'ai eu un peu un parcours chaotique où j'ai pas mal cherché quelle était ma place. Et en fait, quand j'étais petite, j'avais dit à mes parents que je voulais faire du cinéma. Et mes parents m'avaient dit très solennellement, ce n'est pas un métier, tu veux faire autre chose. Et donc voilà. Et donc à 35 ans, j'ai fait ma crise tardive, ma crise d'adolescence. Et j'ai dit, je vais faire du cinéma. Et j'ai voulu, alors très, très scolairement, j'ai voulu faire la Fémis. Et là, j'ai découvert quand même que j'étais trop vieille. J'avais 35 ans, c'est plus possible. Et donc, j'ai appris sur le tas. J'ai commencé à travailler gratuitement dans une société pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis, puis je me suis rendu compte que mes choix d'éditoriaux, de films n'étaient pas forcément ceux de la société dans laquelle j'avais fait mes premières armes. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Et donc, j'ai créé ma société.
Super. Le métier de chef de projet dans une structure de jeux vidéo n'est pas le même que celui de producteur de cinéma pour toi ? Ou il y a des choses qui sont liées ?
En fait, on pourrait dire que ça se rapproche, mais en fait, je ne suis pas une gameuse. Je crois que c'est ça, surtout ça l'origine du souci. C'est qu'en fait, moi, les jeux vidéo... quand je suis arrivée chez Ubisoft, ils m'ont dit « c'est pas grave, si tu connais pas les jeux vidéo, tu vas jouer ». Donc le premier mois, je n'ai fait que jouer. Et en fait, au bout d'un mois, je n'en pouvais plus. C'était horrible. Les premiers jours, j'appelais mes potes en disant « les gars, je suis payée à jouer ». Mais au bout d'un mois, j'en pouvais plus. Hein. Vraiment, c'était horrible. Donc je pense que le fond du problème, il était là, c'est que je ne suis pas une passionnée de jeux vidéo. Et je pense que ça avait du bon aussi, parce que ça permettait de garder la tête froide quand il y avait des soucis de production. C'est-à-dire de vraiment faire la part des choses entre, effectivement, le game design, les graphistes qui vous disent « il nous faut le jeu le plus rapide, le plus beau ». Enfin voilà, dans le plus beau justement, pas le plus rapide. Et les game designers qui il faut le jeu le plus rapide, le plus fluide. Donc ça me permettait de faire la part des choses, mais en fait, j'étais pas passionnée, alors que je suis beaucoup plus passionnée par le cinéma.
Il y avait déjà des problèmes un peu similaires à ce que tu auras pu connaître après dans le cinéma. Je veux une belle image, oui, mais...
En fait, ça, tu le vois pas tellement côté production, parce que je veux une belle image. Enfin, moi, j'essaye toujours de donner les moyens aux équipes de faire de faire le meilleur film. Donc, j'ai pas le problème de je veux une belle image, j'ai pas le matériel nécessaire. J'estime que c'est à moi de me débrouiller pour qu'ils aient le matériel dont ils ont besoin.
Alors pourquoi la production ? Parce que c'est le côté je chapeaute tout le projet, je trouve que c'est le lien entre tout le monde.
Je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante, sinon je serais pas là d'ailleurs. Mais je trouve que c'est une partie super intéressante parce qu'en fait on choisit les projets sur lesquels on veut travailler. Ensuite on choisit les gens avec qui on veut travailler. Et ensuite, on s'occupe vraiment du projet de A à Z, même si effectivement, c'est pas nous qui, c'est pas nous qui nous occupons de la partie créative. Mais je trouve que c'est comme un chef d'orchestre en fait. On est vraiment un chef d'orchestre et on s'occupe de tous les postes, de la construction de A à Z. Et je trouve que c'est vraiment intéressant.
Alors pour nous donner une idée de ce qui se passe en ce moment, sur quoi tu travailles en ce moment ?
Alors en ce moment, je travaille, j'ai produit déjà 12 courts-métrages, donc j'avais décidé de faire une grosse pause sur les courts-métrages pour me lancer dans la production de longs-métrages ou de documentaires. En tout cas, j'avais envie de faire autre chose. Et donc pour l'instant, je travaille surtout sur des projets d'écriture de longs-métrages.
D'accord. Alors même question pour toi, Franck.
Oui.
Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que faisais-tu ?
Vous avez 3 heures devant vous.
Allez.
Pour raconter.
Voilà.
Allez,
on va monter tout ça. On va monter ça en 3 minutes.
D'accord. Je vais faire très simple, très court, en quelques minutes. En fait, j'ai découvert le milieu du cinéma par mon service militaire, et j'ai travaillé sur un documentaire. Et quand je suis monté à Paris, ils m'ont tous dit, viens nous aider. Et j'ai fait de la régie. Et j'ai été régisseur sur des documentaires, des séries. J'ai eu la chance après de travailler à TF1 sur les Commissaires Moulin, Ushuaïa de Nicolas Hulot et 52 sur la Une. Et la société s'appelait Protécréa. Et je me suis très vite ennuyé parce que j'ai dit j'aimerais bien être en haut de la société. Donc j'ai dit je crée ma société et j'ai produit à ce jour 11 courts-métrages. Entre-temps, j'ai créé un studio de casting. Ce qui a été mon gagne-pain pendant quelques années. J'ai fait ça pendant 15 ans. Et depuis que j'ai arrêté il y a 3 ans, j'ai décidé de m'installer à la Cité du Cinéma. La Cité de Luc Besson, comme on dit. Mais c'est surtout la Cité du Cinéma. Donc je me suis installé là-bas et j'ai arrêté l'activité casting. Et j'ai décidé de me consacrer vraiment à la production et de faire que ça. Et aujourd'hui... Je produis 3 longs métrages et une série format court. Voilà.
D'accord, donc tu as anticipé notre question, c'est bien.
Écouté ce que vous avez dit avant. Donc...
En 5 minutes, il a déjà assimilé le fonctionnement.
Ça, je fais court, on pourra plus te parler des scénaristes après.
Très bien. Ok, on est là pour parler de scénario.
Ouais, au final, on parle d'écriture.
Et de producteur. On a une question, genre niveau bac de philo.
Attention.
Franck,
c'est
quoi pour toi un bon scénario ?
Je ne sais pas.
Voilà.
Je ne sais pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de bon scénario. Moi, autant je vais aimer un scénario, autant Cassiopée à côté va pas aimer ce que j'aime. Et c'est ça qui fait le cinéma français. C'est que heureusement qu'on n'aime pas tous le même scénario. Donc un bon scénario, je ne sais pas. Moi, j'ai un coup de cœur. Je produis un long métrage qui est l'adaptation d'un court métrage qui s'appelle The Radar, qui a fait 54 festivals, 17 prix. Au départ, quand j'ai reçu le scénario du court, j'ai pas aimé. J'ai dit ça va jamais marcher. Et aujourd'hui, on fait le long. Donc voilà, c'est parce que il y a quelque chose qui m'a touché dans ce scénario. Les auteurs, les réalisateurs, et puis après, depuis, j'adore ce film. Donc, et je me suis battu pour produire le long. Donc,
Pour toi, peut-être un bon scénario, c'est un scénario où tu te dis, quand tu le lis, ah, ça ne marchera pas. C'est peut-être celui-là le bon.
Ah, bah, il faut que je réfléchisse alors à mon métier. Non, peut-être. Après, un bon scénario, tu sens quelque chose. Tu sens, et c'est comme au cinéma. On va au cinéma, on adore un film, mais. Aussi bien Mathieu, tu vas dire c'est un super bon scénario, aussi bien je vais te dire c'est un mauvais scénario, et pourtant voilà, c'est on a malheureusement des avis différents là-dessus, donc oui, pour moi il y a pas de règle, mais peut-être que on va m'en donner une aujourd'hui.
Peut-être que Peggy va nous donner la sienne.
Ah.
Peggy, c'est quoi pour toi du coup un bon scénario?
Alors moi je pensais un peu comme Franck, c'est-à-dire que je pensais que c'était très subjectif. Et puis, j'ai été dans des commissions, j'ai été dans une commission, la région Centre, pendant 2 ans, où j'ai lu en fait 120 scénarios par an. C'était à peu près 30 scénarios par session, 4 fois par an. Et je me suis quand même rendu compte que, globalement, il y avait toujours sur ces 30 scénarios, un ou deux scénarios qui sortaient du lot. Et que, globalement, ils faisaient ces un ou deux scénarios, l'unanimité au sein de la commission. Et donc, je me suis quand même dit, il y a quand même un truc d'écriture qui fait qu'à un moment donné, même si on n'aime pas le sujet, même si on se dit, oh là là, c'est vu, c'est revu, quand c'est bien écrit, c'est quand même bien écrit. Voilà, donc je pense quand même qu'il y a des scénarios qui sortent du lot. Est-ce que ça fera des bons films ? Ça, c'est une autre question. Mais je pense quand même qu'il y a un travail d'écriture qui fait qu'à un moment donné, il y a une reconnaissance sur ce scénario qui fait qu'à un moment donné, tout le monde est d'accord pour dire que le scénario, c'est un bon scénario. Alors par contre, quelle est la règle pour que ce soit un bon scénario ? Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais je pense... Alors par contre, je suis d'accord. Je pense qu'on a des coups de cœur et heureusement, et c'est ce qui fait la diversité du cinéma. Mais malgré tout, il y a des scénarios, quand on les lit... On sait que c'est bien écrit. Moi, j'ai toujours un truc, c'est quand on arrive à tourner les pages facilement, sans s'arrêter. Bon, globalement, c'est que le scénario, il est quand même pas mauvais, quoi.
Avez-vous déjà travaillé avec des scénaristes seuls, Franck, par exemple? Est-ce que tu as déjà eu le cas où c'est un scénariste qui vient te voir et qui te dit, voilà, moi, je suis pas réalisateur, j'ai écrit un scénario, est-ce que tu voudrais le produire?
Oui, ça m'est arrivé, bien sûr.
Alors comment ça se passe du coup dans ce...
J'ai même travaillé avec des réalisateurs et j'ai fait écrire des scénarios autour de la table. Mais oui, bien sûr. Comment ça se passe par contre, je vais avoir un rendez-vous la semaine prochaine d'un scénariste. Et moi, je lui dis, réalise-le. Et il me dit, non, j'ai pas envie de le réaliser. Donc, parce que son pitch m'a interpellé. Donc je vais essayer de le convaincre de le réaliser. Mais il me dit, il faut encore écrire, développer. Je lui dis... Je vais lire ce que tu as lu déjà, et puis après on verra, mais ouais, c'est intéressant.
Mmh. Est-ce que ça change quelque chose qu'il y ait un scénariste qui ne soit pas réalisateur dans le processus de fabrication après ?
Moi, j'aime bien le travail. En fait, mon métier, ce que j'aime bien, c'est d'être à la base d'après une idée. Là, on va parler autour de la table, on aura peut-être une idée, on va repartir avec...
Un court-métrage sur les podcasts ?
Un projet, oui, voilà. Un long-métrage peut-être.
Un long-métrage.
Il y a 2 producteurs donc, et 2 scénaristes, oui, donc c'est bon, on est parti.
Vietnam.
c'est ça qui m'intéresse, c'est de partir d'une idée et puis qu'on aille dans les festivals parler du film. Et moi, le travail avec le scénariste, j'ai toujours dit, et je pense qu'il y a quelqu'un ici qui pourra le dire, tant qu'on n'a pas un scénario abouti, je ne ferai pas les aides, je ne ferai pas les demandes de subventions, tant que tous les deux, on n'est pas d'accord, moi, producteur et le scénariste, sans moi non plus imposer mes idées, parce que je ne suis pas comme ça. Après, on doit partager, on doit se battre pour convaincre que mon idée est meilleure que la sienne, et le scénariste, il va se battre aussi. C'est, ouais, c'est ce que j'aime, en fait. Donc,
je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien, on dirait quand on travaille, nous, en fait. Parce qu'on n'est pas toujours convaincu des mêmes choses, il faut qu'on se convainque l'un l'autre de ce qu'on pense être la meilleure idée. C'est un peu une bataille par moment.
C'est tout à fait vrai. Toi, Peggy, du coup, t'es scénariste seul, comment ça se passe ?
Alors, il faut. Alors, moi, je.
Peut-être pas du tout.
Ils doivent être gamers pour être.
c'est ça.
Et aimer la Formule 1.
Voilà.
C'est ça.
Arriver en Formule 1 devant le bureau.
Ce serait pas mal, ça, hein. ça ferait de l'effet, en tout cas.
Il n'y en aurait pas beaucoup, pour le
non,
coup.
Non, alors en fait, moi, j'ai pas d'idée préconçue. Je constate quand même qu'aux États-Unis, scénariste, c'est un vrai métier, que réalisateur, c'est un autre métier. Et je pense qu'être bon dans les deux, c'est possible, mais que c'est très difficile. Donc, en fait, je pense qu'on a une spécificité française qui est de dire absolument que le scénariste doit être le même que le réalisateur. Et en fait, je ne suis pas convaincue forcément que ce soit une très bonne chose. Je pense que parfois, j'ai des scénarios qui sont excellents et quand je vois la réalisation finale, j'avoue, j'ai une petite déception.
Ça t'est déjà arrivé d'abord ?
Bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, je me dis toujours, mais comment font les autres producteurs ? Et donc, c'est bon, ça, parfois, de discuter avec les producteurs qui disent, non mais moi aussi, hein, je ne suis pas toujours ravie du film final. Ah bon ? Toi aussi ?
Tu peux faire ton podcast sur les producteurs, si tu veux. Vous pourrez vous plaindre des auteurs.
Non,
ça m'est arrivé aussi.
Ben voilà, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, après, on peut avoir un scénario qu'on adore et puis se rendre compte qu'effectivement, la personne, en fait, est très bonne en écriture, mais pas forcément bonne à la réalisation. Et je pense que c'est un peu dommage. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à trouver ou des gens qui acceptent d'avoir écrit un scénario, de le laisser à quelqu'un d'autre pour le réaliser. Parce que en fait, le métier de réalisateur est beaucoup plus prestigieux en France que le métier de scénariste. À mon avis, c'est une bêtise inouïe, mais je ne dis pas ça parce que je suis ici, hein, je précise.
Non, mais...
et voilà, donc après, j'ai eu une fois l'occasion de travailler effectivement avec une scénariste qui arrivait avec un scénario que j'adorais, qui m'a dit « je ne suis pas réalisatrice » et je suis allée chercher un réalisateur qui lui plaisait aussi. Enfin, voilà, il était très important que ça se fasse en bonne entente et que le réalisateur ne soit pas imposé naturellement. Mais c'est très rare. Et c'est beaucoup trop rare, à mon sens.
Du coup, vous travaillez tous les deux plus avec des auteurs-réalisateurs qui amènent leur projet, qui disent « je veux le réaliser ». Franck, par exemple, c'est plus le cas de figure ou pas du tout ?
Moi, la plupart du temps, sur les courts, ça a été ça. Ça a été auteur-réalisateur. Autant sur les longs, sur les trois projets de longs que j'ai, il y en a deux, c'est des auteurs-réalisateurs. Et un, c'est on allait chercher les scénaristes, les trois scénaristes. Enfin, deux, parce qu'on adapte à un livre, donc l'auteur du livre est aussi scénariste. Mais on allait chercher des scénaristes et les réalisateurs sur ce projet-là sont producteurs. Ils ne sont pas auteurs cette fois-ci, les réalisateurs sont producteurs. Mais oui, on a travaillé avec trois scénaristes.
Est-ce que tu dirais que le travail d'accompagnement entre soit je travaille avec un scénariste, soit avec un auteur-réalisateur est le même ou pas vraiment ? Est-ce que la réalisation prend vraiment le dessus sur l'écriture ou...
Mon travail, c'est de que ça ne prenne pas le dessus, quoi. Parce que tout de suite... et pareil avec un réalisateur, je travaille la même chose. Un réalisateur, je vais lui dire... fais ce que tu as envie de... Et après, on verra, pour économiser, mais balance tout ce que tu veux dans ton découpage, et après, et le scénariste, c'est pareil. N'hésite pas. Écris. Moi, je le dis toujours, là, je travaille avec une étudiante scénariste de l'École de la Cité, parce qu'on forme à l'École de la Cité, à la Cité du Cinéma, des scénaristes et des réalisateurs. Et là, je travaille avec une jeune scénariste, et je lui dis, lâche-toi. Te freine pas. Parce que tout de suite, elle va me dire, mais non, mais ça va coûter cher. Mais on verra après. Si le film coûte 300 millions, c'est OK. Pour l'instant, écris ce que tu as envie d'écrire. Et après, moi, je te dirai ce qui va ou ce qui ne va pas. Et peut-être à ce moment-là, le budget sera réduit. Mais souvent, les scénaristes, ils se disent « mais ça va coûter trop cher, le film, on ne va pas le faire ». Et non, moi, je ne conçois pas comme ça. Donc après, moi, je galère pour trouver de l'argent. Parce que les films coûtent cher.
C'est ta faute, au final.
C'est de ma
faute. Si tu galères.
Mais bon, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de travailler avec les scénaristes et aussi bien avec les réalisateurs.
Non, et puis après, moi, je rajouterais que quand on a fait du court-métrage, franchement, je pense qu'on sait tenir un budget. Et moi, je vois, par exemple, j'ai un film qui se passe dans les années 70. Donc tout de suite, quand je commence à aller chercher de l'argent, on me dit « oh là, c'est cher ». Et en fait, on n'a pas du tout la même notion du budget. Enfin, moi, j'ai pas du tout la même notion du budget que les gens à qui je présente, les distributeurs, qui me disent « ce film est infaisable, il est trop cher ». Mais vous voyez à combien ? Et en général, c'est x3 par rapport à moi, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il y a ça aussi, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se limiter sur un scénario, parce que souvent, en fait, il y a des solutions qui existent pour faire des films dans des budgets relativement accessibles, quoi.
Alors, on a une question sur le parcours habituel d'un scénario qui arrive entre vos mains et qui finit en film. Qu'est-ce qui est le cas de figure qui arrive le plus souvent ? Est-ce que c'est des gens que vous connaissez, des amis qui ont amené un scénario ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous envoie par la poste ? Est-ce que c'est un mail ? Est-ce qu'il y a une règle, en fait, ou pas ? De ce que vous produisez, en tout cas, Peggy ?
Franchement, ce qui se produit le plus régulièrement, c'est des scénarios reçus par mail. Voilà, ça, c'est quand même le plus fréquent.
Donc, pas forcément des gens que tu connais ?
Non, pas forcément des gens que je connais. Après, j'avoue, j'en reçois tellement que je n'en lis pas beaucoup. Et que ceux qui me relancent, je finis par les lire. Donc franchement, si j'ai un conseil déjà, c'est soyez hargneux. N'hésitez pas. Après, il y a des choses en fait. Il y a des choses quand même qui font qu'on va lire un scénario ou pas. Et parfois, je le lis sans même qu'on me relance 400 fois. Parce que dès que j'en reçois un, je suis quand même curieuse. Déjà, il y a une première règle, c'est je regarde s'il a été envoyé à 4000 copies de producteurs. Donc là, quand je vois que c'est tous les producteurs qui ne sont même pas en copie cachée, c'est quand même grandiose, je me dis, bon, bah, voilà, typiquement, il s'en fout que ce soit moi comme productrice. Il n'y a pas de choix derrière, derrière le fait que ça m'ait été envoyé. C'est juste, tiens, j'aimerais bien trouver un producteur. Mmh. Et j'avoue que là, déjà, il part en position nettement moins favorable.
Est-ce que ça arrive souvent ?
Ça arrive quasiment tout le temps.
C'est fou ça.
Donc voilà, après effectivement quand j'en reçois un où il y a marqué bonjour, j'ai regardé votre filmographie, j'ai vu tout ce que vous produisez, j'adore Cassiope Film, forcément on a plus envie de le lire. Voilà,
donc bonjour, c'est... nom du producteur, j'aime beaucoup ce que vous faites dans votre société, nom de la société.
C'est ça.
Ou j'ai, non, mais après, j'ai regardé avec... votre site, moi j'en ai pas donc
c'est bon.
Déjà ça c'est bon.
Moi j'ai un site mais...
Il y a des indices comme ça.
C'est difficile parce que mes films ne sont pas en ligne et c'est compliqué de les voir. Mais malgré tout, voilà, j'ai vu que... Moi, je produis plutôt des films qui rendent heureux. C'est un peu ma touche, ma marque de fabrique. Donc déjà, c'est vrai, quand je reçois un drame noir où globalement tout le monde se suicide à la fin, j'ai envie de dire, regarde, mais regardez un peu ce que je produis. Parce que d'office, vous savez que ce n'est pas pour moi. Quoi. Oui. Après, il ne faut pas être idiot. Je peux très bien tomber amoureuse d'un film très noir. On ne sait jamais. Mais globalement, c'est pas ce que j'ai envie de produire. Mmh. Ça veut pas dire que je n'aime pas regarder ce genre de film, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de produire. Donc voilà, déjà il y a un gros travail, je pense, de savoir comment adresser un scénario. Et je lis systématiquement la première page. Et la première page, en général, je sais déjà si je vais avoir envie de le lire et je le lirai dans la semaine, ou si je ne le lirai pas du tout. Globalement. Et si on me relance pas 40 fois, je lirai vraiment pas du tout. Alors je dis que je réponds à tous les scénarios et c'est pas très vrai en fait. J'avoue c'est mal, mais ma journée ne fait que 24 heures. Et surtout parfois quand je commence avec une page, la première page où déjà je comprends même pas qui est quoi ou comment et que c'est truffé de fautes d'orthographe, bon bah voilà, là on peut dire que c'est mort quoi, voilà.
D'accord. Toi Franck,
Ouais, c'est pareil, on reçoit avant je recevais 10 scénarios par jour par papier, c'était horrible. Aujourd'hui, oui, c'est Internet, c'est les mails et 90% des projets, je les reçois par mail. Donc aujourd'hui, je fais attention, s'il y a marqué Cassiope, je le lis vite avant que...
Donc Peggy te le pique.
Voilà, parce que si ça y est pas, non mais en général, quand ils envoient à tout le monde, je le lis pas tout de suite.
Ça t'arrive aussi souvent, Franck,
de recevoir j'en ai reçu encore aujourd'hui, quoi, et je vois les 40 noms de société.
Ça, c'est fou, quoi.
Donc, ça, c'est... Je me dis, voilà, il a envie de faire produire son film, mais bon, moi, quand je démarche des distributeurs, j'en vois pas mes longs-métrages à tous les distributeurs, les 200 distributeurs en France, du petit au gros, donc...
Ça te ferait économiser du temps, pourtant.
En un mail, tout le monde en copie, et c'est réglé.
Bon, il va falloir que je fasse ça cet après-midi.
Oui, c'est ça.
Je retourne au bureau. Non, et c'est vrai que là, tout de suite, déjà, j'ouvre même pas le scénar. Je dis, OK, je le ferai la semaine prochaine. Et ça prend du temps. Mais quand je vois qu'on s'est adressé à moi et qu'on a vu que j'avais pas de site, parce que souvent, j'ai vu votre site et j'ai vu vos films, et comme j'ai pas de site, là, c'est rédhibitoire. Mais oui, je regarde, je vais lire en travers, en fait, assez vite. Quand je reçois un scénario par mail comme ça, où je vois que personne ne s'intéresse vraiment à la Terre tourne. Et je vais lire en travers pour voir si c'est quelque chose qui va me toucher. Et si ça me touche tout de suite en lisant en travers, je vais le lire tout de suite en fait. Je ne vais pas perdre de temps et je vais prendre une heure. Enfin, ça dépend si c'est un court-métrage, le projet, mais voilà. Parce que j'ai trop peur de passer à côté de quelque chose. Donc voilà.
J'ai une question un peu stupide, mais est-ce que vous recevez encore des scénarios par la poste ?
Oui.
Ça vous arrive régulièrement ?
Pas régulièrement.
Ça m'arrive peut-être une fois par mois maintenant.
Ouais, d'accord. Pareil.
Ouais. Est-ce que vous vous dites, ah tiens, il me l'envoie par la poste, ça veut dire quelque chose ? Ou pour vous, c'est non, comme un mail ?
Non, c'est comme un mail.
Ouais, moi aussi, c'est comme un mail en fait.
Ouais, pour une anecdote, une fois, j'ai reçu un scénario, je crois que j'avais montré à Mathieu. Un scénario, c'était deux scénarios de long métrage. Et il m'a fait une lettre de mort si je ne produisais pas ces films. C'est-à-dire que. c'était écrit, et c'était très mal écrit en plus.
C'était celui qui semblait un peu foufou.
Oui, voilà.
Ouais.
Tu confirmes, Mathieu ?
Ouais, ça me dit quelque chose, c'était assez bizarre.
Et là, ça fait peur, parce que je crois que je les ai encore regardés, parce que je ne les ai jamais lus. Hein.
Non, mais il y a des perles. Hein. Y a des
quand
perles,
j'ai lu la lettre, elle me dit, si vous ne produisez pas, vous serez, je vais venir vous tuer. Donc,
c'est bon, si ça, vous habitez, j'ai pas lu ça encore.
Votre adresse est marquée sur votre site.
Voilà.
Raté.
C'est drôle.
Encore une question de bac philo. Qu'est-ce que vous attendez d'une histoire ? D'un scénario que vous ouvrez, vous cherchez l'émotion, vous cherchez l'intelligence, vous cherchez
un personnage,
les images.
Alors, il y a le coup de cœur, ça on en parlait, mais au-delà
ouais,
du
coup de cœur. Il y a le coup de cœur, je crois que c'est soit ça nous fait, si c'est une comédie, ça nous fait rire tout de suite, dès les premières pages. si c'est un drame, là je produis un drame, voilà, il y a quelque chose qui me fait vibrer, qui m'émeut et bah, j'ai envie de le produire. Et c'est ce que, ouais, on va dire que c'est qu'un coup de cœur, que ce soit une comédie ou un drame, c'est le cœur qui parle, donc après...
Au final, c'est qu'elle soit fidèle à ce qu'elle annonce.
Tout à
si
fait.
Si on te vend une comédie, tu t'attends à rire et si c'est tout le cas, ben, c'est gagné.
Oui. Oui.
Ok, toi Peggy.
Alors moi, je sais ce que j'adore.
Vas-y, parle-nous.
Non, non, moi j'ai toujours tendance à dire que j'ai des goûts très éclectiques. Déjà, j'ai trois garçons, donc je peux aller voir les X-Men, et sérieusement, j'adore. Donc voilà. Mais, et puis, je peux aller voir effectivement des films beaucoup plus intellectuels, et j'apprécie tout autant. Après, c'est ce que j'ai envie de produire, et moi, j'adore les films qui ont un vrai fond, un vrai sujet de société. Et qui vont s'appuyer donc sur, par exemple, quelque chose d'un peu historique, et qui vont parler, enfin qui vont nous faire passer du rire aux larmes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les films que j'adore, où en fait on rit, on pleure, on rit, on pleure, et on passe d'une émotion à l'autre. Et je trouve que c'est les films les plus difficiles à faire. Et je trouve que les Anglais font ça très très bien. Mmh. Et j'ai vraiment vraiment un petit coup de cœur sur voilà les comédies anglaises.
Quatre mariages à Notre-Dame.
Ouais, Quatre mariages à Notre-Dame. Par exemple, j'ai vachement aimé Billy Elliot. J'ai vachement aimé. Voilà, Billy Elliot, par exemple, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un petit bijou. Voilà, ça parle des mineurs, ça parle d'un vrai sujet de société avec un vrai fond historique. Et en même temps, c'est juste le parcours d'un gamin qui a réussi à s'en sortir. Et tu souris, tu pleures, tu souris, tu pleures. Voilà, pour moi, ça, c'est le type de film que j'aimerais produire. Voilà.
D'accord, c'est plutôt précis, c'est bien.
Oui.
On a une bonne idée. Précis. Qu'est-ce qui peut vous donner envie de lire un scénario ? Une phrase bien sentie dans un mail
Un chèque.
Un chèque, par exemple, ça peut marcher.
Ça peut marcher.
Moi, sérieusement, c'est la première page. Déjà, quand il y a le pitch.
Une bonne première page.
Une bonne première page et un bon pitch. Ça, d'accord. Ça me donne envie de lire un scénario.
Toi, Franck ?
Ouais, c'est pareil, le pitch.
Si ça t'attrape, ouais. tu veux savoir la suite.
Ce que j'aime bien, puis des fois, souvent, j'aime bien rencontrer les personnes. Parce qu'on lit des fois un scénario. Et si on sent qu'il y a quelque chose, mais qu'il y a 90% du scénar n'est pas bon, mais qu'il y a 10% de... J'ai envie de rencontrer les gens, quoi, et peut-être perdre mon temps, parce que voilà, si on rencontre les gens, on n'aboutit pas à un projet derrière. Mais au moins donner mes conseils sur ce qu'il a fait, parce que j'ai senti qu'il y avait du potentiel. Après, est-ce que ça devient un film après, je ne sais pas, mais ouais, j'aime bien rencontrer les gens. Souvent, des fois, on sait pas, les scénaristes ne savent pas pitcher. Souvent, il y a plein de fautes, c'est vrai. Il y a l'écriture est pas correcte, mais voilà. Quand je sens un truc, je rencontre.
Oui, je précise que moi, j'ai arrêté de m'arrêter de lire parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, parce que en fait, c'est très rare qu'il n'y en ait pas, quoi. Voilà. Donc maintenant, j'ai arrêté de me dire bon, je lis pas parce qu'il y a des fautes d'orthographe.
D'accord.
C'est la nouvelle génération, c'est quand même plus dur hein, sur les fautes d'orthographe.
Ouais.
Franck, à part les menaces de mort, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi dans la lecture d'un scénario ?
Et à part les 40 producteurs en copie ?
Je sais pas. C'est une question, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est rédhibitoire ? Je ne sais pas.
Peggy ?
Moi, je sais. Alors moi, je lis, voilà, elle est comédienne, elle cherche à devenir célèbre. J'en reçois quand même pas mal comme ça. C'est un peu rédhibitoire. Hein, c'est le cinéma qui se regarde le nombril. J'ai envie de dire aux gens, mais les gens s'en foutent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, il y a quelques très bons films quand même sur le sujet, hein, mais j'avoue que moi, je vais pas au cinéma si c'est une histoire de comédienne qui essaye de percer dans le métier, quoi, par exemple. Donc oui, il y a quand même des sujets qui sont rédhibitoires. Et puis quand j'étais dans les commissions, je m'amusais à faire des tas sur les courts-métrages. Donc j'avais les tas des films où ça traitait de l'homosexualité, j'en avais beaucoup. Après j'avais les tas des films qui traitaient de la banlieue. Et alors j'avais un petit tas spécifique qui était l'homosexualité en banlieue. Donc voilà. Donc là j'ai envie de dire à un moment donné, bon, soyez un peu originaux quoi. Enfin, il n'y a pas que ça comme sujet dans la vie quoi. Et sur 30 scénarios, je pense qu'il y en avait bien 20 qui rentraient dans les trois catégories. Donc c'est monstrueux, voilà. Alors c'était à l'époque hein, c'était il y a 2-3 ans, peut-être que ça a un peu évolué, mais voilà.
Franck ?
Non, je trouve, ce qui est rédhibitoire, ça me revient, c'est que quand on essaie de me convaincre avec une lettre dès le début à vouloir que je produise le film ou qu'on travaille ensemble, quoi. Parce que pour moi, c'est d'abord le scénario qui compte, c'est pas une lettre d'intention. Ça, c'est déjà ça, quand ça commence comme ça, c'est un peu,
oui, c'est un peu compliqué. Tu lis pas les notes d'intention.
Je lis pas les notes d'intention. Ouais. Je lis jamais les notes d'intention. C'est, je veux rencontrer les scénaristes ou les réalisateurs.
Faut la faire en direct, la note d'intention.
Parce que souvent, c'est toujours la même chose. Et toi qui as fait des commissions, tu dois savoir, c'est, je veux faire une belle réalisation, je veux faire du bon son. Et ça, voilà, moi, je lis, ça ne m'intéresse pas.
Est-ce que vous liriez une bonne note d'intention ?
Peggy, non, tu disais en fait, que toi. Moi, aussi... je ne les lis pas d'abord. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je me dis, quand je vais au cinéma, je ne lis pas une note d'intention, je vois ce qui se passe à l'écran. Donc, pour moi, c'est le scénario d'abord. Et qu'après, effectivement, si le scénario, je le trouve vraiment intéressant. Et que je lis une note d'intention que je trouve vraiment bien écrite, intéressante, etc., ça me donne vraiment envie de rencontrer la personne qui a écrit ce scénario. Et voilà, et ça se traduit systématiquement par une rencontre. Mais c'est vrai que la note d'intention, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui commencent par la note d'intention et je trouve ça toujours très étonnant. Pour moi, il faut commencer par le scénario. C'est, le film qu'on va voir, c'est un scénario qui a été transcrit à l'écran et ce n'est pas une note d'intention.
Et pour l'anecdote, j'ai deux anecdotes par rapport à ça. C'est qu'une fois, j'ai eu un bon scénario de long métrage et j'ai jamais pu contacter le scénariste parce qu'il n'avait pas mis son adresse, son numéro de téléphone, son mail.
Oh, c'est énorme.
C'est bien ça.
Et bah, même sur l'enveloppe, il n'y avait rien. Donc, je savais d'où ça venait. Mais
aujourd'hui,
Facebook,
un
maintenant, je peux lancer un appel. Mais oui, l'anecdote, c'est que j'ai fait, mais comment je le contacte ? Je pensais qu'il avait mis au moins son CV.
Rien. Il n'avait rien mis.
Rien.
Incroyable.
Il avait entendu que tu disais que le scénario, et donc il a mis que le scénario, c'est énorme.
Est-ce qu'il y avait des indices dans le scénario pour retrouver son identité ?
Ah bah, je suis pas agent secret, j'ai pas pu trouver les codes. Ah,
et la deuxième anecdote,
du coup ? Et la deuxième anecdote, c'est que quand j'ai commencé le métier, j'avais produit un court-métrage, et je reçois un jour par la poste un scénario de court, et je le lis, et j'adore le projet. Et donc, je contacte les réalisateurs, ils avaient laissé le numéro de téléphone, heureusement. Et je les contacte, et ils sont venus sur Paris, et en fait, ils ont fait un casting de producteurs, parce que j'étais pas le seul. Ils ont rencontré 7 producteurs. Et comme moi, j'avais fait qu'un seul court, et que j'ai vu qu'ils rencontraient les plus gros producteurs de court-métrage de l'époque, je me suis dit, bon, j'ai aucune chance. J'ai eu la chance de produire le film qui a fait 65 festivals et une quinzaine de prix. Je l'ai produit. Et
qui s'appelle ?
Chasse et croisée. Un jour, sur le tournage, j'ai dit, mais comment, pourquoi vous m'avez choisi moi ? J'avais rien produit, j'ai pas d'expérience. Les autres producteurs avaient 15 grands métrages derrière eux. Il me dit, t'es le seul à nous avoir parlé du scénario. C'est-à-dire que les 6 autres producteurs ont parlé que d'argent, alors que moi, vu que j'ai reçu les réalisateurs, j'ai parlé avec eux du scénario, du personnage, que là, ça serait peut-être trop long, il faudrait peut-être couper, j'ai parlé que de ça. J'ai pas parlé d'argent, parce qu'au départ, c'est un scénario.
C'est parce que tu n'avais pas abouti.
Pardon ?
Tu n'avais pas d'argent, mais tu pouvais parler de scénario.
J'en ai eu plein grâce à ce film-là. Donc,
les autres avaient plein d'argent et n'avaient pas envie de parler du scénario.
Peut-être, c'est ça. Mais ils m'ont choisi pour ça. Et, parce que je leur ai dit, mais j'ai pas d'expérience, donc c'est un gros risque pour vous. À l'époque, les grosses sociétés, je sais plus le nom, mais et voilà. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi. Donc j'étais fier. Parce que pour moi, le cinéma et pour métier producteur, c'est d'abord travailler sur un scénario et j'étais fier de ça. Quoi. Ça m'a encouragé à continuer.
Après, moi, j'ai déjà reçu des scénarios où, franchement, j'avais pas envie de bouger une seule ligne. Ça m'est déjà arrivé. C'est très rare, mais...
Tu le prends tel quel.
Ah ouais, tu te dis, franchement... Et pourquoi... Puis en plus, je me dis, voilà, faire travailler un auteur pour lui montrer que voilà, je suis producteur et qu'il faut absolument que j'apporte ma patte, etc. Enfin, voilà, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de dire vraiment... Là, le scénario, il est juste nickel.
Pour ma part, ça m'est arrivé aussi, pour l'anecdote, parce que j'ai encore une autre là-dessus, le scénario devait terminer à la poubelle. C'est-à-dire qu'aucun producteur voulait le projet. Et je l'ai lu et j'ai rien changé. Même pas un mot, même pas une virgule. Il n'y avait pas de faute. Donc c'était super. Et j'ai produit le film. Et c'était un thriller, une comédie, qui s'appelait We Do It.
Que je vais regarder, j'ai vu le DVD.
Voilà. Je lui ai prêté le DVD.
Et les réalisateurs, en plus, n'étaient pas du métier. Ils
très
étaient
bon
banquiers
film.
Et agents EDF. Ils étaient deux réalisateurs et donc ils n'étaient pas du métier. Et c'est le directeur de la photographie qui m'a mis, que je connaissais, qui était des amis aux réalisateurs, qui m'a fait rencontrer. Mais j'ai dit, mais comment qu'une production ne produit ce film, quoi, qui était très bon. Et il a bien marché, puisqu'on a fait une trentaine de festivals, mais voilà. Mais j'ai rien changé. Pas un mot. J'ai dit, allez, on y va.
Eh ben, bravo.
En parlant d'écriture, est-ce que vous vous intéressez à l'écriture ? Est-ce que vous écrivez, vous, en tant que producteur ?
Alors que ce soit vous seul ou avec les auteurs.
Je fais trop de fautes pour écrire.
Alors moi, j'avoue, j'avais commencé à écrire un livre en me disant, tiens, je vais écrire, etc. Mais c'était avant mon métier de producteur.
C'était sur la Formule 1,
c'est ce que j'allais dire.
Même pas. Non, j'avais commencé un roman et en fait, c'est très bien parce que ça m'a quand même montré à quel point le travail d'écriture était difficile. Voilà, donc j'ai une très, très haute estime du travail d'écriture parce que je m'y suis essayée, que je me suis rendu compte que c'était un vrai métier, que j'étais vraiment pas douée pour ça. Et voilà, donc c'est juste ma petite expérience qui m'a permis de, en tout cas d'attacher énormément d'importance au travail d'écriture.
D'accord.
J'ai quand même écrit 100 pages, hein, donc je m'étais bien mis.
T'as mis longtemps avant de te rendre compte.
Non, parce que je voulais absolument aller au bout du projet. Et puis en fait, je l'ai envoyé, chose qu'il ne faut pas faire, hein, mais je l'ai envoyé à des amis. J'ai jamais eu de retour et j'ai compris que c'était mauvais, quoi. Je veux dire, à un moment donné.
Est-ce que c'est des amis?
C'est toujours des amis.
C'est toujours des amis, mais voilà, je pense qu'ils ne savaient pas comment me dire. Bon, oublie, quoi.
Et depuis, Peggy, pas de nouvelles tentatives?
Non, jamais, jamais. 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 Bon.
Toi, Franck, du coup.
Non, j'ai pas envie d'écrire. Je pense qu'il y a beaucoup de talent sur Terre pour ça. Et si j'écris, c'est des petites choses, mais pour moi personnel. Mais non, j'ai pas envie d'écrire. Par contre, réaliser un jour, je réaliserai.
Ouais.
Pour voir comment un réalisateur travaille. Comme ça, je pourrais dire des choses à mes réalisateurs. Mais non. Mais j'ai pas envie de devenir réalisateur non plus. C'est juste me faire un film un jour pour ça.
Pour l'expérience.
Oui. Mais je pense que je ferai écrire le scénario. Ouais.
Donc ça vaudrait le coup aussi que des scénaristes fasse des stages chez les producteurs pour se mettre dans la peau des producteurs.
Bah pour actuellement, je travaille avec une jeune scénariste de l'école de la Cité qui travaille avec moi sur la production et elle voulait faire un stage et elle m'a dit j'ai envie d'apprendre et au moins là je suis en train de contacter les distributeurs de long métrage donc elle voit le travail. Tu vois, quand tu as écrit ton scénario long, le temps d'attente et
tout ça. Tout ce qui se passe après.
Elle apprend, elle est super contente parce qu'elle apprend plein de choses. Quoi. Et elle ne savait pas tout ça. Donc
Est-ce que vous avez des bases en dramaturgie pour avoir un langage un peu commun avec des scénaristes? Est-ce que c'est des choses que vous avez un peu étudiées?
Moi, j'ai effectivement acheté tous les bouquins de scénario. Et puis, je suis allée faire une formation de 3-4 jours avec... comment il s'appelle déjà? Robert Mackie, voilà, que j'ai trouvé vraiment super intéressante. Et ça pose quand même un petit peu les bases. Quoi, voilà. Et donc, j'ai dû lire 3-4 bouquins d'écriture de scénario et j'ai fait cette formation. Voilà.
Toi, Franck?
Identique.
Identique.
Pareil. J'ai fait Mackie. Moi, j'ai fait tous les stages, même en production, pour apprendre au maximum. Et en tant que scénariste et lecteur, je me suis dit, allez, il faut faire toutes les formations. Et je ne voulais pas avoir qu'un point de vue Mackie ou d'autres bouquins. Donc, j'ai tout fait les stages.
Et Trudy aussi, c'est ça. Hein.
Trudy, ouais.
Trudy, tout Trudy, ça, ouais, et voilà, comme ça, ça m'a permis de me faire mon propre regard sur les scénarios.
Oui, il y a quand même des trucs à savoir, quoi. Enfin, je veux pas dire, mais c'est quoi, quand même. C'est quand même un outil technique, quoi. Enfin, voilà. Où bah, effectivement, il y a plusieurs actes. Enfin, en fait, un long métrage, c'est long. Et si tu veux pas que ton attention elle retombe au bout d'une heure, on appelle ça le ventre mou du scénario. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des trucs qui sont réels, quoi. Donc
ça vous a vraiment apporté des choses pour dialoguer après avec vos auteurs?
Oui.
Ouais, quand même, oui.
Et est-ce que vous initiez des projets? Est-ce que vous suggérez des sujets?
C'est à mon tour d'avoir une anecdote.
Vas-y, Peggy.
Vas-y.
Parce que moi, j'ai adoré un livre qui s'appelait La douceur des hommes de Simonetta Gregorio. Et je m'étais mise en tête qu'il fallait absolument en faire un long métrage. Et en fait, il y a des livres qui ne s'adaptent pas. Et donc, j'ai rencontré pas mal de scénaristes qui ont lu le bouquin et qui m'ont dit après, on est un peu perplexe parce qu'on ne voit pas comment l'adapter. Et donc, voilà, ça a été ma seule expérience où j'ai absolument voulu faire un travail de commande de producteur. Et j'avais rencontré l'auteur qui était très flatté. J'étais en pourparlers avec la maison d'édition. J'avais mis une option sur les droits. Les droits pour le cinéma. Et en fait, en rencontrant les scénaristes, j'en ai pas rencontré qu'un seul. Globalement, ils m'ont tous dit, mais oublie, quoi. Oublie. Et effectivement, je pense que c'était pas un livre à adapter, quoi. Il y a des livres à adapter et d'autres qui sont pas adaptés. C'était juste mon enthousiasme débordant sur le sujet et sur le livre. Et voilà, donc ça m'a appris. Et depuis, je lis beaucoup, beaucoup de premiers livres, premiers romans. Mais dès qu'ils sont bons, franchement, ils se font repérer. Et quand on veut les acheter, les droits, c'est déjà trop tard, souvent. Ouais. En plus, comme je suis une petite société, on m'attend pas. Hein. Puis j'ai pas beaucoup de moyens pour mettre un gros chèque sur la table pour acheter des droits. Mais je pense qu'effectivement, il y a toujours quelque chose à regarder de ce côté-là. Mais c'est compliqué parce que je suis pas la seule à faire ça, quoi.
Heureusement, il existe le librement adapté de... qui peut être un petit subterfuge au cas où.
Et toi, Franck?
Quelle était la question?
Et toi, Franck?
Est-ce que tu inities des projets? Est-ce que tu es la base de certains projets?
Oui, j'initie. Des fois, je suis sous ma douche et je pense à une idée. Et je me dis, allez, on va la faire. Et un jour, j'ai lu un livre et j'ai dit, tiens, il faudrait l'adapter en film. Et j'ai demandé à un scénariste, qui est parmi nous aujourd'hui, d'adapter le livre. Donc, ça n'a pas abouti.
C'est pas de rien.
Non, je sais.
C'est toi, Mathieu, c'est qui ? C'est Adrien. Mais oui, j'ai trouvé le livre intéressant, enfin une partie du livre, et on a essayé de développer. Bon, on n'est pas arrivé au bout malheureusement, parce que oui, ça coûte de l'argent de mettre une option sur un livre. Après, l'auteur du bouquin n'a plus voulu que je lui mette une option sur les droits, et parce qu'il voulait écrire le scénario aussi.
C'est son droit.
C'est son droit. Et il a dit, si un jour je fais un film, je voudrais écrire le scénario. Je dis ok. Mais bon, ça arrive. Moi, ça m'arrive que voilà, le matin, hop, j'ai une idée, bah, j'y vais. J'essaie d'avoir les droits. Des fois, on a les droits, des fois, on ne les a pas. Des fois, on n'arrive pas à aboutir. On a une super bonne idée, mais on n'arrive pas à en faire un scénario parce que c'est comme ça, ça arrive.
Alors, la question maintenant, c'est comment vous participez à l'écriture avec les auteurs? Comment vous les accompagnez vraiment sur le processus d'écriture? Est-ce qu'ils vous donnent une version, vous la lisez, vous prenez des notes, petite réunion, on en reparle point par point? Comment vous abordez les choses, en fait? Comment ce travail s'effectue avec eux? Quel que soit leur profil, hein, auteur-réalisateur ou que scénariste? Franck, par exemple. Ou si tu veux, laisser la place à Peggy, qui a peut-être déjà la réponse.
Ouais, en fait, il n'y a pas trop de règles.
Une anecdote, peut-être?
Non.
Là-dessus, non. Allez-y sur les anecdotes.
Non, j'ai pas d'anecdote. Non, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règles. Moi, en général, effectivement, je lis le scénario, je fais mes retours, je reçois une nouvelle version, je relis, on en reparle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose qui nous convainc. Après, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a souvent... en fait, j'ai découvert qu'il y avait des auteurs qui étaient très, très bons dans les dialogues, mais qui étaient franchement pas très doués sur les structures des films. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très, très doués sur les structures, c'est-à-dire que le film, il est très bien construit, mais les dialogues, c'est hyper cliché, donc c'est très compliqué, souvent, d'avoir les deux en même temps. Et donc, j'ai soit un travail sur la structure qui, je trouve, est plus difficile, en fait. Hein. Quand on doit rebouger la structure parce qu'elle n'est pas bonne, c'est quand même un poil plus compliqué. Et parfois, j'ai un gros travail sur les dialogues avec des personnages qui sont caricaturaux. Enfin, et voilà. Et en fait, j'ai ces deux cas de figure principalement. Mais c'est vrai que je fais ça avec des allers-retours. Et c'est compliqué, souvent, d'arriver à un film qui soit vraiment où on se dit vraiment, ça y est, on y est. Quoi. En fait, c'est aussi le boulot du producteur, c'est de dire à un moment donné, bon, allez, tant pis, on y va. Quoi. C'est pas parfait, mais on y va. Quoi.
D'accord. Franck ?
Moi, le truc, c'est que mes projets actuellement, c'est des adaptations aussi bien de livres ou de courts-métrages. Ouais. Parce que de long, c'est des courts-métrages, c'est adaptation de courts-métrages. Autant, par exemple, la série, le short-com que je suis en train de produire, c'est une idée d'une personne qui est venue nous voir, moi et mes coproducteurs, et on est allé chercher un scénariste. Et c'était mon travail d'aller chercher le scénariste, donc je suis allé un peu voir ce qui se faisait dans les... Parce que je pouvais pas prendre un auteur de drame ou autre, donc je suis allé voir les scénaristes qui écrivent pour la télé, et je suis allé chercher, et je suis allé parler aux agents, et je leur ai pitché mon projet en disant, est-ce que tu as un auteur qui correspond à ça? Donc, et aujourd'hui, on a trouvé l'auteur qui a écrit ce qu'on voulait, mais au départ, comment on écrit, c'est qu'on fait, moi, enfin, je fonctionne comme ça, c'est des brainstorming. Bon, s'il y a un livre adapté, bon, il faut que chacun lise le livre, et après qu'on en parle, mais ça va être un brainstorming pendant, avant d'écrire, c'est comment tu vois les choses, comment moi je vois les choses en tant que producteur, comment il voit les choses, vers quoi je voudrais aller avec ce projet, et puis après, c'est des retours, ben, s'il écrit le synopsis, le séquencier et autres, quoi.
En cas de désaccord, est-ce que ça vous arrive? Comment vous résolvez certains points où des fois ça marche pas? Est-ce que vous imposez la chose, vous laissez un peu reposer, vous revenez dessus?
Non, on serre la main, on dit au revoir.
Ah bah moi, il m'arrive de pas aller au bout de projet et du coup de pas le produire, hein, tout simplement. Hein.
Quand ça peut amener un arrêt de collaboration.
Oui, tout simplement. En fait, c'est aussi l'avantage aussi du travail en amont de la mise en production du film. C'est qu'on apprend à connaître les personnes et à travailler avec. Donc on se rend compte aussi si ça passe ou ça passe pas, hein, tout simplement. Mmh. Bon, c'est très rare hein, quand même que ça n'aille pas au bout. mais ça arrive.
Ça peut arriver. Ouais.
Ça peut arriver.
Je suis d'accord, moi ça m'est arrivé. C'est pas allé au bout malheureusement parce qu'on n'arrivait pas à trouver. C'était peut-être pas la bonne personne pour écrire. J'étais sûrement pas la bonne personne pour produire le film. Donc on n'est pas allé au bout malheureusement. Quoi.
En fait, j'ai tendance à dire que c'est comme un couple, un scénariste. Producteur ou un réalisateur-producteur, c'est comme un couple et donc parfois il y a des divorces, parfois il y a des engueulades. Ça peut être une histoire qui dure toute la vie, comme ça peut s'arrêter au bout de 5 ans.
Et en plan cul, ça existe aussi ou pas, ce genre de choses?
Je sais pas, parce que moi j'ai un mari que j'aime beaucoup, donc j'ai pas ce problème-là, mais voilà. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment une relation comme une relation de couple, quoi, tout simplement.
D'accord.
Qui reste professionnelle.
Oui, oui.
On s'entend.
Bien sûr, bien sûr. On va passer dans une séquence un peu plus joviale, un peu plus... voilà, les sourires, les blagues, les anecdotes, tout ça. Quel est l'aspect de votre métier de producteur que vous préférez? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et le premier qui est prêt.
Tout.
Ah, c'est facile ça.
Pour ma part, ben, je vais laisser réfléchir.
Voilà, tu peux répondre Franck pendant que Peggy réfléchit.
Voilà, j'ai pas réfléchi donc je vais improviser. Mais non, moi ce que j'aime c'est quand il y a des challenges, quand c'est pas possible, quand je me dis mais comment je vais faire pour trouver l'argent, comment je vais faire pour écrire le scénario, comment on va arriver à voilà. Et peut-être je me mets des Himalayas trop importants, je sais pas. Mais non, j'aime bien quand il y a du challenge et c'est le côté du métier qui me plaît en fait.
Ça part quand même d'un scénario où tu te dis ça marchera jamais.
Et voilà.
Ça fait une bonne combinaison tout ça
bah
pour
oui.
un producteur.
Donc je me dis, voilà, ça va pas marcher, mais je sens quelque chose, il faut y aller. Et, bah oui, c'est bizarre. Hein. Ma vision est bizarre, mais ouais, je vois les choses comme ça. Quoi. Quand c'est trop facile, je me dis, il y a quelque chose qui va pas.
Moi, je sais ce que je préfère.
Vas-y, Peggy.
Vas-y, Peggy.
Ça y est, j'ai réfléchi, mais pas longtemps. Moi, ce que je préfère, c'est quand il y a la première du film qui est projetée, que j'ai vu 300 fois, 3000 fois. Et que là, je sens l'émotion du public. Et là, tu dis, ah, c'est gagné, quoi. Et alors ça, j'adore.
Voilà. Ça y est, j'ai fait un film.
Puis surtout, voilà, c'est parti de voilà d'une rencontre, d'une écriture sur un bout de papier. Enfin voilà, et ça se transforme en film. Et surtout, ça touche les gens. Et ça, voilà, ça c'est pas souvent. Hein. J'ai aussi produit des films qui faisaient pas du tout cet effet-là. Mais quand ça marche, c'est vrai que c'est très, très, très... voilà, c'est la récompense, quoi.
C'est ça qui est plaisant, je suis d'accord avec Peggy, c'est que l'aboutissement de tout ça, c'est d'être en salle, devant un public, et si on a fait une comédie, on fait rire les gens, ou si après, on a fait un drame et que les gens viennent vous voir pour dire j'ai compris des choses sur... voilà, un jour, j'ai produit un court-métrage d'une histoire d'un couple qui s'engueule dans un supermarché. Et je suis allé projeter le film dans une prison et les prisonniers, il y en avait un, il avait tué sa femme parce qu'il l'a battu et il est venu nous voir et moi j'ai pris peur. Avec la réalisatrice, on était là, j'ai fait oh là là et en fait il pleurait et j'ai dit qu'est-ce qui se passe et il a expliqué, il a dit mais j'ai compris à travers votre film plein de choses et c'est comme s'il avait des remords, enfin oui il a des remords j'espère mais et voilà et ça m'a... De ressentir ça, ça m'a fait dire que mon métier, il était important pour moi de continuer et de me battre pour aller encore plus loin, quoi.
Bah, ça calme.
Ouais, c'est vrai. Instant émotion, tout à coup. C'est quoi votre journée type? Si on devait la résumer, mais elle peut être romancée, elle peut être.
La journée type, c'est de faire une interview pour. et de faire un podcast. C'est ça, ouais. La journée type.
Tous les jours, tu fais des podcasts.
Avec Adrien et Mathieu.
Ça sent
le petit billet.
Sans le mec qui va être réinvité, ouais. Tu sens.
En fait, on a envie de dire c'est hyper fun, etc. Mais en ce qui me concerne, c'est quand même 80% de bureau. Hein. Je veux dire, une journée type, c'est une journée au bureau. Quoi.
99%, je dirais.
Heureusement qu'on vous fait sortir, là.
Ouais,
heureusement
ouais,
qu'il
ouais.
y a les 1% pour ça.
C'est nous les 1%. Ouais.
Non, après, on a des tournages. Enfin, moi, je sais que je suis sur les tournages de mes cours parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, donc j'y suis non-stop. Il paraît que c'est pas bien. Il paraît qu'un producteur ne doit pas être sur le tournage, mais bon, moi, en l'occurrence, j'y suis. Donc ça change.
Pourquoi Peggy, d'ailleurs ? Question comme ça.
Parce que le producteur doit chercher des sous, doit monter des projets, et que c'est le métier du directeur de production d'être sur les tournages. Sauf que moi, j'adore les tournages. Déjà, j'adore y être. Et que c'est là où le film prend vie, et ça me plaît de voir un petit peu comment ça prend vie. Pas de surveiller, hein, juste pour mon plaisir aussi personnel. Et puis voilà, s'assurer que ça se passe bien dans l'équipe, qu'il y ait une bonne ambiance. Alors ça aussi, j'ai découvert, hein, une bonne ambiance dans une équipe ne fait pas forcément un bon film, hélas. Sinon, je pense que j'aurais fait que des bons films. Mais voilà, enfin, globalement, c'est vrai que c'est, la journée type, ça reste quand même 90%, ouais, t'as peut-être raison, de bureau.
Franck, tu confirmes ?
Oui, je confirme. On pense qu'on est toujours dans les festivals, qu'on est toujours dans les soirées, qu'on est toujours en train de déjeuner et tout ça. Non, c'est pas ça. On est derrière un bureau et on attend, on est patient que les commissions nous donnent des subventions.
Sauf pendant le Festival de Cannes.
Sauf pendant le Festival de Cannes. Heureusement qu'il y a ces moments-là, mais même Cannes, voilà, c'est pas... Quand on va à Cannes, enfin pour ma part, je ne vais pas à Cannes pour aller aux soirées, je vais à Cannes pour avoir des rendez-vous de 9h du matin à 19h le soir. Et c'est ça qui est important. Mais on pense que, voilà, parce que j'ai mes lunettes de soleil et que je suis sur une terrasse, ben je travaille malheureusement. Et Bon, il y a du plaisir aussi, mais la plupart du temps, on est 99% du temps derrière un bureau, derrière un ordinateur ou derrière un scénario à lire, et c'est ça notre travail. Hein.
Mmh. Bah, finalement, nous aussi.
Hein. Eh oui, on est tous là. Il y a des réalisateurs qui, des fois, sortent un peu.
Voilà. Nous, on a notre 1% de commun, c'est ce podcast.
Ouais, il y a ceux qui sont sur les tournages, quoi, oui. Qui effectivement vivent beaucoup dehors.
Mais moi aussi, j'adore aller sur les tournages et c'est un plaisir. En fait, je vais surtout sur les tournages, dans les festivals. J'aime bien ça, quoi. Donc,
moi, je ne vais pas assez dans les festivals, mais je le sais.
Pourquoi ?
Parce que j'ai une journée qui ne fait que 24 heures déjà.
C'est plus de 1% en festival.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça, ça dépasse le 1%. Oui, c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est beaucoup de choses.
Voilà, c'est idiot, mais j'ai 3 enfants, ça prend du temps, en fait. C'est idiot, oui, mais ça prend du temps, quoi.
Il faut les emmener avec. Il y a peut-être des films de super-héros.
Ils sont grands, ils veulent plus venir, hein. C'est fini.
Alors, récemment, on a un producteur de court-métrage qui nous a dit qu'un scénario de court-métrage ne vaut rien, qu'un scénario de court-métrage n'a aucune valeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez, que vous partagez ? Ça vous évoque quoi,
Peggy ?
Alors moi, c'est idiot évidemment qu'un scénario ça a de la valeur. Enfin voilà, c'est. Après, je pense que quand il disait ça, il pensait à la valeur pécuniaire, à l'argent. En fait, ce qui est vrai, c'est que pour moi, le court-métrage, c'est vraiment la R&D du long-métrage. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est un exercice, parce qu'il y a plein de gens qui défendent le court-métrage et qui disent que c'est vraiment un objet cinématographique à part. Moi, je pense que le court-métrage, c'est vraiment ce qui sert à s'entraîner et à voir quels seront les réalisateurs de demain. C'est mon point de vue. Hein. Donc, évidemment qu'il y a des courts-métrages qui sont très réussis, qui sont de très jolis films. Mais pour moi, c'est vraiment une étape pour aller vers le long-métrage. Et quand je dis ça, du coup, c'est vrai qu'on est là aussi pour faire des premiers films, pour prendre des risques quand on est producteur. Il n'y a pas de marché. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de marché comme dans le long-métrage sur lequel on va pouvoir vendre les courts-métrages. Donc, la seule moyen de les financer, c'est d'avoir des subventions, voire des chaînes de télé qui vous donnent un peu d'argent, mais cet argent n'a rien à voir avec les sommes que vous pourriez avoir pour faire du long-métrage. Et donc, il est clair qu'il y a peu d'argent pour faire des courts-métrages. Et donc, quand on entend effectivement ce genre de propos, je pense que c'est pour dire qu'effectivement, tant qu'on n'a pas trouvé les financements, on n'a pas d'argent pour faire des films. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. C'est juste que c'est une question financière. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Oui, mais est-ce que globalement, un scénario de court-métrage s'achète ou se développe avec de l'argent ?
Alors, moi, j'avoue, je mets pas beaucoup d'argent quand je prends les droits d'un court-métrage, je mets très peu d'argent parce que j'estime que je vais travailler autant que le scénariste, que moi, je ne me paye pas sur les courts-métrages et que si je fais des courts-métrages, c'est par amour du cinéma et pour un jour pouvoir aller au long-métrage. Voilà, ça, c'est ma théorie. Après, si on arrive à obtenir des financements et notamment des financements d'aide à l'écriture, clairement, le scénariste sera rémunéré parce qu'on aura eu des aides à l'écriture. Mais c'est pas moi, société qui galère déjà pour faire tenir ma structure, de mettre de l'argent dans quelque chose où je vais passer énormément de temps et je vais y passer de l'énergie. Donc pour moi, c'est un risque partagé. Enfin voilà, donc je l'explique. Moi, j'ai aucun problème avec l'argent. Je suis extrêmement transparente. J'explique comment je fonctionne, pourquoi je ne paye pas, pourquoi je vais chercher des aides, parce que je vais aussi y passer du temps. Quand je produis un film, je me suis jamais payée sur les 12 courts-métrages que j'ai produits, j'ai jamais pris d'argent dessus. Par contre, je prends quand je peux, parce que parfois c'est pas possible, une petite part pour faire vivre ma structure. Voilà, donc en général, j'essaye, mais je l'ai pas fait sur les 12 films, hélas, mais de prendre 10% du budget pour des frais de structure. Mais je suis très transparente. Je dis exactement ce que je fais, comment je marche, etc. Donc après, si les gens ne sont pas d'accord, en tout cas, ils ne pourront pas me traiter de voleuse parce qu'il suffit de dire j'ai pas envie de travailler avec elle et c'est tout, quoi. Enfin, voilà. Et c'est pareil, quand on fait le budget du film, moi, je montre le budget du film au réalisateur et je leur dis où va l'argent. Pour moi, un court-métrage, c'est des vases communicants. Donc en gros, si vous mettez de l'argent dans le matériel, vous en aurez moins pour payer les gens, vous en aurez peut-être moins pour la régie. Enfin voilà, donc est-ce qu'on veut des grosses équipes ? Est-ce qu'on veut beaucoup de matériel ? Est-ce qu'on veut que les gens soient bien payés ? Et pour moi, ça c'est vraiment une question qui doit être posée en amont et discutée avec le réalisateur. Voilà, et voilà, c'est mon point de vue.
Ok, super.
Tu mets de l'argent un petit peu quand même sur une option ou une cession de droit d'auteur dès le départ ?
Non, je mets franchement, je mets
qu'elle
rien.
Soit symbolique ou pas, non, tu
je mets
rien.
Entre 50 et 100 euros, c'est ridicule. Quoi.
D'accord. Non, mais au moins c'est.
Je le sais. Je sais que c'est ridicule. Ça s'appelle une clause léonine. D'ailleurs, c'est pas valable devant un tribunal. Hein, mais je le sais parfaitement. Voilà. Sauf que si je mettais zéro, ça ne vaudrait encore rien, quoi. Donc, je suis obligée de mettre un petit peu d'argent. Sur du court métrage. Hein,
moi, voilà. C'est ce que je mets pour le long métrage. Entre 0 et 100 euros.
Ah ouais, c'est une autre catégorie, là.
Alors, Franck, du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Quel est le nom de ce producteur? Non, je rigole.
Non, mais c'était intéressant. Nous, ça nous fait bondir en tant que scénariste, évidemment, mais c'est intéressant ouais, d'avoir votre avis.
Ça me fait bondir aussi, parce que pour moi, tout travail de scénariste a de la valeur. Il est clair que les subventions ne sont pas les mêmes sur un court-métrage qu'un long-métrage. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas payer comme on voudrait tout le monde aux tarifs syndicaux, comme ça existe. Après, pour moi, un court-métrage, voilà, on fait des formats courts à la télé, c'est des petits courts-métrages. Avant, on écrivait des nouvelles. Pour moi, c'est aussi des courts-métrages d'écriture. Donc, voilà, quand on écrit quelque chose et que ça a un intérêt, pour moi, ça a de la valeur. Donc, voilà, au départ, oui, c'est pas édité, c'est pas un film, mais après, ça va le devenir. Donc, pour moi, je suis contre cette phrase-là, quoi. Je suis pas d'accord avec ça.
Donc, tu mets un peu d'argent aussi sur la signature d'une option, d'une session de droit ?
Sur un court, non.
Sur un court, non.
Un long, oui. Sur un court, non.
D'accord.
Donc, non, parce que...
Non, pour savoir,
sur
hein,
un
comment
court,
ça se passe.
On n'a malheureusement pas d'argent, sauf si on a des aides d'auteur, qui, pour mon cas, sont très rares.
Moi, j'ai eu deux fois, c'est ça. Deux fois. Sur les 12, j'ai eu deux fois, effectivement, des aides à l'écriture qui ont permis de rémunérer le travail des auteurs sur le travail d'écriture du scénario de court-métrage. Mais ça arrive, mais c'est rare, je suis d'accord, c'est très rare.
Moi, c'est juste, je l'ai eu une fois sur un cours, mais c'est pas moi qui l'ai eu. Enfin, j'avais fait le dossier pour l'auteur. À l'époque, c'était moi qui faisais les aides. Maintenant, c'est par Internet. C'était Beaumarchais. Et c'était pour une comédie en plus. Donc, j'étais étonné et l'auteur était content parce qu'il avait touché une grosse somme quand même. Parce que moi, j'essaie de faire toutes les aides et même faire les aides pour les auteurs pour leur dire voilà, je vais m'en occuper, tu signeras juste à la fin. Je lui prépare même l'enveloppe, il n'aura plus qu'à
à
la mettre à la poste et je lui paye même le timbre. Mais au moins, je sais que toutes les aides sont faites parce que je veux me battre aussi bien pour moi trouver l'argent pour faire le film, mais aussi bien trouver l'argent pour l'auteur qui a écrit pour un court-métrage gratuitement, malheureusement, et aussi bien pour le long. J'en suis au début où je n'ai pas fait 15 longs qui sont sortis en salle, donc on galère un peu à trouver d'argent pour payer nos auteurs. Donc on essaie de faire toutes les aides et je me bats pour ça.
Mmh. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions subsidiaires comme
oui,
ça
oui. Moi j'ai plein de questions, mais...
L'interrogatoire, tu sais.
Comment, selon vous, on pourrait améliorer les relations auteur-producteur?
Très simple. Quand on aura plus de subventions, quand on nous aidera, l'État ou le CNC ou autre aidera pas que les sociétés qui sont déjà établies, pas que les sociétés producteurs qui ont déjà produit un long métrage, dès le départ. Nous, on a besoin, jeune société, quand on commence à faire un long, d'avoir des subventions... Dès aujourd'hui, il y a toujours des contraintes. Soit l'auteur, il ne faut pas qu'il ait fait plus de deux longs, soit l'auteur, il y a toujours un truc où on ne rentre pas dans la case. Et après, moi, mes scénaristes et mes réalisateurs me disent « Mais comment tu ne trouves pas d'argent ?» Je dis « Mais regarde, je suis obligé d'expliquer pourquoi on ne rentre pas dans la case. » Mais j'ai vu cette aide-là au CNC. Oui, mais on ne peut pas la faire parce que tu n'as jamais rien fait avant. Voilà. Peut-être qu'il y aura peut-être un travail à faire, alors, c'est peut-être en train de se faire, mais un travail à faire sur les premiers films, par exemple. Sur les jeunes producteurs qui n'ont pas financièrement la trésorerie qu'il faut pour... Parce que tout métier mérite salaire, donc même un scénariste, ça mérite d'être payé. Quoi.
Même un scénariste.
Même un producteur aussi, j'ai envie
de dire. Même un producteur.
Qu'est-ce que tu penses de cette question, Peggy ?
Je sais pas, parce que moi, je trouve pas que mes relations avec les auteurs soient mauvaises, donc j'avoue que je sais pas. Après, non, financièrement,
C'est pas forcément financier, ma question.
Ouais,
parce que
après, j'avoue que moi, les rares fois où j'ai eu des soucis, c'était effectivement financier. C'est-à-dire que les relations sont pas mauvaises, mais il y a juste, à un moment donné, on a tous besoin de vivre, de manger, d'être nourri. Et en général, d'ailleurs, quand je rencontre quelqu'un qui veut faire du cinéma, j'ai une question qui est très indiscrète, c'est de quoi vivez-vous ? Parce que je vous explique tout de suite, le court-métrage que vous allez faire, c'est pas ça qui va vous faire vivre. Donc moi, je le dis tout de suite, je l'annonce, quoi.
Bah, c'est honnête.
C'est honnête, exactement. J'ai un ami qui travaille dans la musique, pas du tout dans le cinéma, mais il me disait tous les métiers artistiques, en fait, il faut compter 10 ans pour y arriver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment...
Alors, vous en êtes où, vous?
Moi, ça fait que 6 ans, donc j'ai encore 4 ans à ramer, normalement.
Mais... Zut, ça fait 20 ans.
Non, voilà, enfin, en gros, ce sont des métiers difficiles où tout le monde a envie. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y aller. Et en gros, il faut savoir que bah, ça va pas être un parcours facile, quoi, tout simplement. Donc après, oui, comment améliorer les relations? Moi, j'ai des bonnes relations avec les gens avec qui je travaille, donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de les améliorer. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là. Je manque de temps, ça, par contre, oui, ça c'est vrai. Je suis toujours difficile à attraper.
Est-ce qu'il y a des qualités que certains auteurs manquent? Non pas, qu'ils devraient avoir, idéalement.
L'orthographe?
Ah bah oui, par exemple.
Par exemple, ouais.
Ou l'écoute, peut-être, savoir accepter un retour.
Ça, c'est important pour vous, par exemple?
Ce qui est vrai, c'est que moi, quand je travaille avec des jeunes auteurs, quand on leur fait des remarques, en général, c'est « non, je veux rien changer, c'est comme ça ». Et quand je travaille avec des gens qui sont un peu plus âgés, un peu plus mûrs, j'ai pas du tout ce genre de retour. Donc maintenant, j'ai tendance à fuir les jeunes auteurs, malgré moi, hein, mais c'est parce que j'ai eu trop d'expérience, où je me suis retrouvée avec des gens qui n'avaient pas envie de bouger ou de changer quoi que ce soit, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème. C'est-à-dire qu'il faut voir que le producteur, c'est pas l'ennemi. Il n'est pas là pour détruire un scénario. Au contraire, d'abord, si on travaille avec quelqu'un, c'est parce qu'on aime son scénario, qu'on a envie de travailler avec la personne, et que donc on essaye de trouver des solutions pour chercher des financements aussi. Il faut savoir ça, c'est qu'à un moment donné, nous, on est là pour faire un film, mais aussi parce qu'on sait qui on va avoir comme type de lecteur en face, et ce qui plaît, ce qui plaît pas, et qu'on fait parfois un peu, excusez-moi l'expression, on fait un peu la pute pour aller chercher des financements, mais parce que c'est nécessaire. Et en fait, les jeunes auteurs comprennent pas très bien ça. Quoi. Ah ouais. Voilà, ils restent très figés, bloqués, t'as rien compris à mon film.
Bon, okay. Et en plus, ils font des fautes.
Pas tous, heureusement, hein, pas tous.
Et toi, Franck ?
Je pense qu'il faut, mettre son ego de côté, quoi, en tant que scénariste, parce qu'il faut être à l'écoute. Si moi, en tant que producteur, je dis des choses, c'est pas parce que j'ai pas envie de dénaturer le scénar, c'est que je pense que mon idée est peut-être plus intéressante que ce qu'il avait amené sur une séquence. Mais souvent, oui, les jeunes auteurs, c'est non, je vais pas changer. Après, si lui, il arrive à me convaincre, il arrive à me dire que mon idée est mauvaise, alors oui, mais voilà, chacun doit mettre son ego et le mien aussi, hein, je dois le mettre de côté. Et des fois, je peux avoir à dire tiens, faut changer ça, puis en fait, je suis en train de me planter. Et ça va tout déstructurer le scénario, les personnages, enfin voilà. Donc, mais il faut en parler. Et donc, et c'est pas évident, même moi qui suis pas jeune, de mettre mon ego de côté. Ça c'est un vrai problème, quoi. Et juste en tant que pour les scénaristes, c'est pas parce que vous allez voir un producteur que spécialement le producteur il a de l'argent.
Le mythe du producteur avec de l'argent.
Je pense qu'ils ont commencé à comprendre.
C'est sûr nous on commence à en croiser pas mal.
C'est sûr que quand vous allez là où j'ai mes bureaux, vous allez à la Cité du Cinéma où il y a 40 producteurs, mais il y en a un, c'est Europacorp, et un autre parmi les 40, c'est La Terre Tourne. C'est clair que vous allez, en tant que scénariste, vous allez voir Europacorp, ils auront de l'argent à vous donner pour vous payer en tant que scénariste. Si vous venez me voir, j'ai pas la trésorerie de Europacorp et je vais avoir plus de mal. Nous, on va se battre comme pays, on va se battre pour aller chercher l'argent tous les jours. On va pas faire la pute, mais bon, on se bat tous les jours. Mais c'est pas parce qu'on vient nous voir et que je vais voir un producteur, il a de l'argent. Non, en général.
Je parlais du scénario qui faisait la pute. Hein. Excusez-moi, c'était pas moi.
Non mais ce qu'on défend nous c'est surtout, on peut comprendre que certains producteurs sur ce type de projet, à savoir des courts-métrages, ne puissent pas avoir d'argent pour développer des scénarios, et ce qu'on, nous on apprécie, et c'est ce qui se passe, c'est que le producteur dit ok, je comprends que tout mon travail mérite salaire, tu comprends que moi je vais devoir aller chercher de l'argent et que je vais me battre pour ça, mais comprenons aussi que ce scénario a une valeur potentielle et que si on n'investit pas tout de suite, c'est pour moi la R&D dont tu parlais tout à l'heure, si on n'investit pas sur ce scénario, il n'aura potentiellement jamais de valeur. Donc le compromis qu'on peut trouver, donc c'est ce que tu pratiques Peggy et c'est plutôt cool, c'est de se dire ok, je mets une somme symbolique pour dire voilà, je m'engage financièrement, c'est-à-dire que je sais que moi j'y ai mis quelque chose, donc je ferai peut-être plus attention à ça.
Parce que pour moi, 50 ou 100 euros, c'est ridicule, hein,
oui,
c'est pour ça aussi.
Je pense et je suis... Je pense que beaucoup d'autres scénaristes, auteurs pourront le dire. Sur le court-métrage, si on en développe, c'est quand même bien de savoir qu'à un moment donné, il y a un peu ça, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que ne pas avoir de contrat, ne rien avoir, moi, ça me paraît...
Je fais toujours un contrat. Ouais, mais là, toujours,
c'est difficile,
hein.
En fait.
100 euros, c'est toujours 100 euros de plus que zéro.
Voilà. C'est vrai.
Et avec une promesse sur un contrat que l'argent pourra être débloqué au moment du... Après découverte des financements.
Bien sûr.
Voilà, je trouve que c'était ma remarque.
Je trouve ça important aussi. Je ne l'ai jamais fait sur le court. Mais même sur le long, je donne toujours un minimum, même si j'ai pas... pour l'euro symbolique, comme on dit. Et pour le court, moi, je fonctionne différemment. C'est que j'ai jamais donné, mais j'ai toujours dit c'est 50-50. Je signe un contrat, une option, et les recettes sur le court, ça sera 50-50. Comme en général, l'auteur est aussi le réalisateur. Voilà, c'est malheureusement j'ai pas eu un scénariste sur un court qui était pas réalisateur, mais ça a été toujours les recettes, ça sera 50-50. Donc de là, j'ai dit moi je prends 80 et toi t'auras 20. Non, ça a été c'était mon apport. Je pouvais pas donner 100 euros. Voilà.
Il y a toujours moyen en fait.
Il y a toujours moyen
de se retrouver. En plus, enfin, ce qui est bien quand on signe un contrat aussi, c'est d'abord qu'on en discute et puis qu'on dit comment on fonctionne. Quoi. Après, moi, j'ai jamais. C'est comme les gens. Voilà, j'ai des courts-métrages où j'ai pas d'argent et les gens travaillent bénévolement, toutes les équipes. Moi, j'ai jamais forcé quelqu'un à travailler bénévolement. Je veux dire, à un moment donné, quand on me dit ah oui, c'est dégueulasse, vous nous payez pas, j'estime que les gens sont libres de dire oui ou non. Quoi. Enfin, à un moment donné.
À partir du moment où c'est clair.
Au moment, pas de voilà, raison, bien sûr, évidemment. À partir du moment où c'est clair, mais j'ai jamais eu l'impression de prendre les gens en traître. Quoi. Enfin. Donc voilà, après, oui, je préfère avoir de l'argent pour faire des courts-métrages, c'est sûr, quoi qu'il arrive. Quoi. C'est beaucoup plus confortable en plus.
Et moi, je n'ai jamais développé un projet sans signer de contrat. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été en marche parce que je n'ai pas voulu. J'ai dit, je ne signe pas, je ne peux pas promettre. Donc je ne signe pas, j'ai du mal parce que tu passes peut-être à côté d'un gros projet, mais c'est comme ça. Je veux être sûr qu'il faut qu'il y ait un contrat. Même là, les scénaristes, le livre qu'on vient d'adapter, on a pris trois scénaristes, il y en avait deux, je leur ai dit, je ne signe pas de contrat si vous n'avez pas d'agent. Mais non, mais je leur ai dit, si, vous me trouvez un agent, c'est même moi qui leur ai trouvé un agent. Ouais. Parce que je leur ai dit, je n'ai pas envie que vous pensiez que je vous arnaque, excusez-moi du mot, mais que je vous arnaque. Donc j'ai trouvé un agent pour eux, pour que je puisse discuter avec l'agent au niveau du contrat et qu'on discute les pourcentages, pas avec eux, parce que moi je voulais parler avec eux que d'artistique. Et on n'a pas signé le contrat, on a perdu 2 mois.
Ah ouais.
Parce qu'ils ont rencontré aussi des agents malheureusement. Donc, Et voilà.
Ouais, pour faire bien les choses,
c'est bien.
Bon, on essaye.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un super scénario, de rencontrer l'auteur et de tomber sur un gros con?
Oui.
Oui.
Ah, j'adore.
C'est clair.
Là, vous avez fait péter les micros, du coup. On va refaire le rire. Non, je plaisante.
Et alors, c'est quoi le...
C'est
quoi...
Bah, c'est
la déception, quoi. À quel point êtes-vous déçu?
Déception, quoi. Grosse déception. Non, mais on sait qu'on ne pourra jamais travailler avec cette personne-là, quoi. Voilà, tout simplement, ça arrive. Tu lis un truc, tu te dis c'est super, et puis en fait... Tu discutes avec la personne et tu sais que tu pourras jamais travailler avec cette personne. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Ça reste quand même un métier de contact, hein. Ce que je disais, c'est on construit une relation de couple, quoi. Donc à un moment donné, bah, c'est comme quand tu rencontres, quand tu rencontres une fille et que tu te dis, elle est moche, elle me plaît pas.
Peu importe la plastique du scénario, si l'intérieur de l'auteur n'est pas.
Non, mais voilà, enfin c'est une histoire d'affinité. Et quand t'as pas d'affinité, vaut mieux surtout pas travailler ensemble. Ça c'est clair, même si le scénario est dément.
Franck, ouais.
Moi, ça m'est arrivé, et j'étais très déçu, quoi, parce que je me suis dit, zut, quoi, je passe à côté d'un projet énorme, mais bon, c'est comme ça. Je suis passé aussi à côté de scénarios où il y a d'autres producteurs qui ont pris le projet. Et j'adorais le scénario. Et quand l'auteur m'appelle, il me dit ben, ça ne sera pas avec toi que je travaillerai.
Ah, ça, c'est dur aussi.
Ça, c'est dur aussi. Ouais, quoi, c'est, mais ça, c'est dur. C'est notre métier.
Ouais. On a des déceptions aussi. Hein. Parfois, oui. On se fait jeter. Hein.
Alors, quel genre de projet, on arrive bientôt à la fin, hein. Quel genre de projet vous aimeriez plus développer? Le projet de vos rêves, finalement, aujourd'hui, c'est quoi?
Moi, j'ai déjà répondu,
oui,
hein, je crois.
Oui, c'est vrai, tout à l'heure. Oui, Franck, ce serait quoi, du coup?
Le projet de mes rêves, c'est de produire mes 3 longs métrages actuellement et qui sortent en salle très bientôt. Voilà mon rêve, quoi. Mon rêve, par exemple, là, si j'ai un exemple, c'est Radar, d'avoir fait le court-métrage, parce que je m'occupe beaucoup des festivals sur mes courts-métrages. C'est pour ça que mes films font pas mal de festivals. Et voilà, si on a abouti, parce que je me suis battu 2 ans pour faire écrire le long, parce que les auteurs voulaient pas, j'aurais dit si, faut, à chaque fois je montrais le court, mais pourquoi vous faites pas une série, pourquoi vous faites pas un long-métrage, et voilà. Et moi, depuis le début, je voulais faire le long, mais ils voulaient pas, je me suis battu. Moi, j'aurais mis un gros chèque pour ça.
Ouais, c'est ça.
Ils ont accepté. Mais,
ça marche toujours comme ça. Hein.
Mais voilà, mon rêve, c'est que ce film-là existe et j'aille en salle un jour le voir. Mais enfin, mes 3 autres longs métrages aussi. Donc,
Moi, j'ai 3 films là, en ce moment en écriture, 3 longs métrages, et j'avoue que les 3 sont très différents quand même. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de ne pas avoir exactement le même sujet, le même angle, le même public en fait, finalement.
J'aimerais savoir, quand vous lisez un scénario, les erreurs pour vous d'histoire ou de construction de scénario qui sont les plus fréquentes. Vraiment en termes de dramaturgie, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Par exemple, je vous donne un exemple, un personnage qui n'a pas d'objectif. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez souvent? Ou un manque d'enjeu? Voilà, est-ce que c'est des choses qui vous...
Ou pas de fin.
Ou des films qui n'ont pas de fin. Des erreurs voilà, qui vous sautent aux yeux. Vraiment sur l'aspect lecture de scénario, purement histoire.
Pour moi, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est le dialogue.
Des mauvais dialogues régulièrement.
Ah ouais. Souvent, c'est on travaille pas assez le dialogue. Quoi. On dit oui, ça sera au tournage, ça sera... Non, c'est maintenant. Quoi. Et je trouve que autant les personnages... Des des fois, on peut dire, ouais, c'est... il va dans une mauvaise direction, mais la plupart du temps, c'est les dialogues, je m'ennuie à la lecture du dialogue, je me dis, ça c'est bateau, c'est une phrase toute faite, c'est... et voilà, ça c'est ça qui me gêne à la lecture.
Ouais, moi, c'est les clichés.
Les clichés.
Ah, les clichés, c'est terrible d'avoir des clichés en pagaille. J'en ai beaucoup dans les lectures de scénarios et d'écrire parfois sur des sujets que les gens connaissent pas et du coup de ressortir tous les clichés. Et ça, c'est un peu dur, quoi. Voilà. C'est vraiment ça pour moi la plus grosse erreur de scénario que je vois le plus fréquemment.
Pour rester un peu dans le ton des erreurs et tout ça, pour conclure, est-ce que vous auriez des conseils pour les jeunes auteurs? À part ne pas faire de fautes ou moins se braquer quand on leur fait des retours.
Ne travaillez pas sans contrat, ne travaillez pas gratuitement. N'allez pas voir, c'est pas parce que vous allez voir un producteur que souvent j'entends ça et ouais, j'ai écrit un scénario et au bout ça n'a pas abouti. Là je suis en train de produire un long métrage, le producteur a fait développer le scénario sans contrat, sans rien. Bon, c'était un gros producteur, donc moi au départ je voulais le produire mais j'avais pas les moyens et il a voulu travailler avec l'autre producteur qui avait plus d'argent, sauf qu'il n'a pas signé le contrat. Et rien n'a abouti. Aujourd'hui, ce projet, il est chez moi. Je le produis, j'ai signé un contrat tout de suite. Et on a trouvé, même en signant le contrat, qu'il avait fait une erreur parce qu'il a donné les droits à un comédien, les droits du scénario à un comédien, parce que le comédien est américain. Il a fait écrire les droits en anglais, enfin les droits, les dialogues en anglais, pardon. Et il a donné des parts d'auteur au comédien. Donc mon avocat a découvert que les droits n'étaient pas du court-métrage n'étaient pas qu'au scénariste, mais aussi au comédien.
Oula.
Donc ça a soulevé ce problème-là, donc je suis très content de... Voilà, mais ne signez pas un contrat, ne faites travailler jamais gratuitement ou jamais sans contrat, ça c'est...
Moi c'est ce que je dis aux gens qui viennent travailler avec moi, c'est j'ai pas beaucoup d'argent, mais par contre moi je mets pas mes scénarios dans les tiroirs, quoi. Et effectivement il y a pas mal de grosses boîtes de production qui prennent beaucoup de scénarios, c'est vraiment leur politique. Et d'ailleurs c'est un truc que je n'ai toujours pas compris, mais je sais que c'est comme ça que ça marche. C'est on a 10 projets de long métrage parce que comme ça il y en a un qui va réussir à se faire. Alors que moi je comprends pas. Pour moi on en a un, on fait le deuxième, on fait le troisième et j'envisage pas en fait de ne pas faire mes projets et de ne pas les voir aboutir. En fait, pour moi, c'est impossible. Donc, moi, je dis, quand je m'engage vraiment. Après, bon, effectivement, quand on a fait tourner un scénario, qu'on se rend compte qu'on n'a pas réussi à le produire, il faut savoir aussi reconnaître qu'on n'est pas forcément la personne adaptée et qu'il y a des scénarios où, je pense, les producteurs sont des bons producteurs pour ce scénario-là, mais pas forcément pour d'autres. Il faut rester très humble, voilà.
Je suis d'accord.
Eh bien, c'était un très beau mot de la fin. Merci à nos invités. Où est-ce qu'on vous retrouve, chers amis producteurs? Sur les internets? Pas du tout. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de site.
Pas de site internet pour les chercheurs.
Moi, j'ai un site. Hein.
Alors, dis-nous tout, Peggy.
Moi, mon site, c'est www.cassiopé-du6film.com. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà.
Oui,
le tiré.
Et pour ma part, vous allez sur Cassiopée et il y aura le lien qui ira directement sur la Terre. Non, je rigole. Non, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook. Et j'ai pas de site internet. Vous pouvez me trouver sur un site qui s'appelle Unifrance. Vous pouvez aller sur Vimeo voir mes vidéos ou mes teasers. Mais vous tapez la Terre tourne et vous verrez des choses.
D'accord.
Voilà.
Super. Eh ben, merci à vous deux. C'est la fin de ce podcast, Mathieu.
Bah oui, merci de l'avoir suivi. Le mois prochain, on va parler de comment aborder un nouveau projet.
Exactement.
Ça va être sympa.
Plus orienté à l'écriture.
Voilà, ça va être très créatif.
On revient au basique. C'est comme d'habitude, hein, si vous avez une question, une remarque, une critique, vous pouvez nous écrire à podcast@adrienetmathieu.fr. Retrouvez-nous sur notre site internet www.adrienetmathieu.fr, sur Facebook, Instagram et Twitter @demecdrôles.
Et laissez-nous une petite note, un commentaire sur iTunes, ça nous aide vachement, c'est cool.
Bien sûr, et on remercie encore une fois notre partenaire Antonin Sgambato sur les toits production et Pleine Image pour le prêt de la salle. Voilà.
Super décor.
Exactement. Merci.
Bien chauffé.
Au mois prochain. Salut. Salut à tous. Merci.
Salut.
Merci, au revoir.
Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir.
Nous laisser un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 euro, vous nous aidez déjà énormément.
Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible.
Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.